Le débat du jour. Nicolas Brousse.
Bonsoir à tous et bienvenue pour ce débat en plein dans l'actualité. Certains estiment qu'ils construisent un nouvel espace démocratique, d'autres qu'ils occupent illégalement la place de la République à Paris et d'autres places d'ailleurs en province, mais aussi à l'étranger, en Belgique, en Espagne par exemple. Eux, ce sont les acteurs qui participent au mouvement Nuit Debout lancé le 31 mars à Paris. On y refait le monde, c'est une sorte d'agora de la nuit où tout le monde a le droit de prendre la parole dans des assemblées générales à même le sol, des assemblées que retransmettent sur internet une radio et même une télévision. Alors Nuit Debout est-elle annonciatrice du grand soir? C'est le débat ce soir sur RFI. Avec nous en studio, Jean-Numa Ducange, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, maître de conférences à l'université de Rouen. Olivier Faure, bonsoir.
Bonsoir.
Député socialiste de Seine-et-Marne, porte-parole du PS, vice-président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et secrétaire national de ce même PS. Par téléphone, au cœur de Nuit Debout, place de la République, Loïc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes intermittent, membre de la compagnie théâtrale Joli Môme. On va commencer avec vous, puisque si l'on en croit un témoignage de François Ruffin, le réalisateur du film Merci Patron, c'est un peu vous, Loïc, qui avez lancé la dynamique dès le premier rassemblement à la Bourse du Travail, le 23 février. Comment ça s'est passé?
Non, c'est pas une initiative personnelle. Nous étions des centaines à nous être réunis, effectivement, à l'initiative de François Ruffin et autour du film Merci Patron. Et nous étions des centaines à nous dire que ce n'était plus possible de partir après la manifestation, revenir une semaine plus tard et nous épuiser ainsi de manifestation en manifestation sans jamais être entendu par un pouvoir qui ne prend plus du tout en compte les revendications, les idées, les conditions de vie du peuple. Donc nous avons proposé à ce moment-là de dire qu'effectivement, après la prochaine grande manifestation que nous avons estimé au 31 mars, eh bien à ce moment-là, nous ne rentrerions plus chez nous parce que nous étions plus dupes du soi-disant jeu démocratique. Nous sommes fait promener depuis des dizaines d'années d'élection en élection et on a vu ce qui s'est passé sous les derniers mandats, c'est-à-dire que on a fait en notre nom des guerres au Proche-Orient ou en Afrique, on a pillé des pays, on occupe des pays. Tant jamais que la population se trompe et jamais été consultée pour ça.
Alors Loïc, ça fait beaucoup de pierres dans le jardin d'Olivier Faure qui va vous répondre. Juste ce soir, est-ce que le mouvement reprend puisque vous avez été évacué tôt ce matin? Vous êtes de nouveau sur la place de la République, de nouveau réunis?
Oui, nous sommes de nouveau en train de nous réunir sur la place de la République. Il y a déjà des centaines, peut-être un millier de personnes et d'autres personnes continuent à arriver. Les débats vont reprendre, même si la police a mis un petit peu de pression en interdisant qu'on recrée le campement tel qu'il était mis en place depuis plusieurs jours, c'est même arraché les plantations agricoles qu'on avait faites. Mais peu importe, on peut toujours nous expliquer, nous reviendrons, parce que nous sommes rendus compte depuis 10 jours que c'est parfaitement légitime, que nous avons des choses à échanger ensemble, et surtout que nous avons des choses à construire ensemble.
Alors, on va y revenir, et vous avez a priori l'autorisation de discuter jusqu'à minuit ce soir. Olivier Faure, une réaction à ce que vous dit Loïc, en gros, le pouvoir ne répond pas aux aspirations de la jeunesse en particulier, de la société en général?
Bon, d'abord, moi, je veux dire que j'ai le plus profond respect pour ce qui se passe depuis quelques jours, place de la République et dans 69 villes en France, et que ce mouvement à, même si on ne partage pas forcément les revendications ou en tout cas les aspects les plus critiques à l'égard du gouvernement, je trouve que de voir des hommes, des femmes se rassembler, essayer de construire ensemble un avenir, ne pas être prisonnier de ce que sont les pensées plus ou moins uniques qu'on nous impose à longueur d'années, je trouve que c'est plutôt une bonne chose et que c'est un réveil de la gauche qui est plutôt salutaire. Et donc, moi, je salue cette initiative, même si, effectivement, le débat doit ne pas être à sens unique et ne pas laisser penser non plus qu'aujourd'hui, la gauche soit une gauche qui soit passée à droite, que les parlementaires soient maintenant tous des libéraux, que nous soyons tous à être dans le même sac que Nicolas Sarkozy et consorts. Ça, effectivement, je trouve ça un peu caricatural. Mais pour le reste, je trouve que c'est un mouvement qui mérite d'exister et qu'il faut saluer.
Jean-Numa Ducange, justement, effectivement, c'est la gauche là qui est visée par des gens qui sont a priori plutôt de gauche, voire de la gauche de la gauche. Comment on explique ce phénomène?
Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que depuis 15-20 ans, disons depuis en France que le Parti communiste a décliné, l'espace à la gauche du Parti socialiste, bon, est laissé vacant. Il a été occupé un petit peu à une époque par l'extrême gauche issue des organisations des années 70. Puis donc il y a eu le Front de gauche. Mais tout ça ne répond pas manifestement à toutes les nouvelles aspirations qui existent dans cette autre gauche, pourrait-on dire. Ce que l'on entend souvent, ce qu'on reproche souvent à ces mouvements, c'est qu'ils sont trop institutionnels, trop parlementaires, trop liés aux formes traditionnelles. Ça, c'est une critique récurrente. Bon, là aussi, il ne faut pas non plus voir de la nouveauté nécessairement partout. Le mouvement a sa dynamique propre, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire qu'on ait des contestations sur la gauche, de la gauche institutionnelle, lorsque l'on estimait qu'elle n'était pas à la hauteur des enjeux et qu'elle ne respectait pas le programme sur lequel elle avait été élue. On est en ce moment, on est pile dans les 80 ans du Front populaire. C'était la campagne il y a pile 80 ans. Il faut savoir que les grandes mesures sociales attachées au Front populaire, il y en a certaines qui étaient dans le programme, mais d'autres qui ont été poussées par un mouvement extérieur, par un mouvement social. Par exemple, la plus célèbre de ces mesures, ce sont les congés payés.
Les congés payés avec Léon Blum. Loïc, mais, oui, Olivier Faure, allez-y.
Non, juste pour dire qu'effectivement, la gauche institutionnelle, puisqu'elle existe aussi, et heureusement, elle a aussi besoin que se créent dans la société des rapports de force différents et qu'on puisse ne pas être sans cesse le dos au mur face à une opinion publique qu'on nous présente comme entièrement acquise à toutes les dérégulations. Et le fait d'avoir aujourd'hui des gens qui portent un autre message, souvent utopique, mais une utopie qui est à vocation humaniste et qui permet de remettre l'homme au centre du projet de société, je trouve ça effectivement plutôt heureux. Et moi, je souhaite simplement que ce mouvement ne se radicalise pas en pensant que il peut, de lui-même et à lui seul, donner un débouché politique à ces contestations. Moi, je pense qu'au contraire, le dialogue doit être maintenu avec cette gauche que vous appelez institutionnelle et qui, en même temps, est celle que les Français ont choisie il y a 4 ans et qui continue à gouverner. Et donc, ce dialogue-là doit être maintenu jusqu'à la fin.
Loïc-Olivier Faure vous entend avec une certaine bienveillance. Ça n'est pas le cas des hommes politiques de droite. Pourquoi Nuit Debout est née alors que nous sommes sous un gouvernement socialiste, donc de gauche? Pourquoi Nuit Debout n'est pas née quand c'était Nicolas Sarkozy au pouvoir?
Nuit Debout est née de la saturation de cette hypocrisie qui nous regarde avec bienveillance en réduisant les droits de tous les travailleurs, en s'attaquant aux droits des chômeurs, en allant faire des guerres un peu partout sur la planète. On peut pas dire qu'on est bienveillant vis-à-vis de la population quand on a de cesse de soutenir d'un côté le MEDEF et en même temps d'appauvrir la population, de faire régner la guerre sur la planète. Donc nous, ce genre de discours, on n'y croit plus. Moi, je vous le dis, j'ai vu l'autre jour une banderole sur cette place qui disait qu'elle soit nationaliste, républicaine ou socialiste, virons la droite. Je crois que c'est assez clair. Il n'y a plus d'espace de crédibilité de la part ni des Républicains, ni des socialistes, et donc pas plus du Front National, bien sûr, pour nous préparer un avenir qui soit plus juste et qui soit de la solidarité. Ici, tous les jours, on manifeste la solidarité avec les migrants qui sont maltraités par la police de ce même gouvernement. Ici, on manifeste la solidarité avec les chômeurs qui sont en ce moment purement attaqués par le MEDEF et la CFDT, dans la renégociation de l'assurance chômage. Ici, on manifeste la solidarité avec les syndiqués et les syndicalistes qui sont poursuivis par la justice. Donc, nous n'attendons plus rien, nous avons tout à construire, nous entendons bien le faire ensemble. Tout ce qui se construit, tout ce qui se fait, on échange beaucoup, on discute beaucoup, on construit. Je pense qu'il y a une vraie alternative à ce qui se passe au niveau électoral à construire ici. Nous n'attendons rien de la prochaine élection présidentielle. Et en tout cas, voilà, en ce qui me concerne, je peux vous garantir que je ne voterai pas pour ce monsieur. Il y a même, il déclarait...
Alors, Olivier Faure se présente pas à la prochaine présidentielle, non, a priori, ou alors ce serait un scoop. Il y a quand même un problème, Olivier Faure, quand on entend Loïc, en gros, gauche-droite, on l'entend dans d'autres franges de la société de gauche, c'est qu'on ne fait plus la différence entre la gauche et la droite, en tout cas, la gauche et la droite appelées à gouverner.
J'entends ce message-là, et il n'est effectivement pas le seul à le porter. Et il faut l'entendre. Mais en même temps, moi, ce que je veux lui dire, c'est que c'est assez plaisant et confortable de se dire solidaire avec toutes les misères qui subsistent dans notre société. Dire qu'on est solidaire avec les migrants, tout le monde peut le dire. Maintenant, il faut dire comment cette solidarité s'exprime. Et il faut aussi aller le porter dans les quartiers populaires. Moi, je suis issu d'une circonscription qui est une circonscription populaire. Et je peux vous dire que cette solidarité n'est pas spécialement naturelle et que les gens ont peur d'être plus bas dans la file d'attente quand les migrants arrivent. Et donc, on a à gérer des contradictions qui sont aussi des tensions qui sont très fortes dans la société française, avec des peurs qui sont parfois aussi irrationnelles, qui sont liées à la peur du terrorisme, etc. Et donc, je dis pas qu'il faille les agiter, je ne suis pas d'extrême droite, mais je dis aussi que c'est pas si simple que d'avancer, et que pour pouvoir avancer, il faut parfois avoir la patience que n'ont pas toujours ceux qui voudraient que tout change tout de suite. Et effectivement, je ne porte pas le grand soir, ni même le petit matin, mais c'est effectivement une différence que j'ai avec ces gens-là. Mais c'est pas parce que j'ai cette différence que c'est pas une question de bienveillance. C'est que je préfère avoir des gens qui occupent l'espace public et qui viennent défendre des idées qui sont des idées généreuses, plutôt que d'avoir des gens qui se referment, qui se replient et qui se rabougrissent sur le Front National. Donc effectivement, c'est la raison pour laquelle je trouve, je vais pas dire sympathique parce qu'on jugerait condescendant mon adjectif, mais c'est pour ça que je trouve que c'est plutôt un mouvement qui va dans le bon sens parce qu'il est du bon côté de la force.
Jean-Yves Ducamp, je vous avais expliqué que ce n'est pas la première fois que ce genre de mouvement existe, donc y compris quand la gauche est au pouvoir. Encore une fois, je suis quand même un peu surpris. Quand on entend Nuit Debout, on a l'impression qu'ils sont plus contre, plus vindicatifs encore face à François Hollande qu'ils n'auraient pu être face à Nicolas Sarkozy. Alors qu'a priori, pour le peuple de gauche, voire d'extrême gauche, Nicolas Sarkozy, c'était vraiment le grand Satan. Il n'y a pas eu cette mobilisation.
Non, alors ce qui a probablement changé par rapport à d'autres périodes, c'est qu'on considérait, des mouvements extérieurs considéraient qu'ils pouvaient s'appuyer sur un gouvernement de gauche pour les pousser un peu plus loin. C'était par exemple l'attitude qu'avait une partie de la gauche, disons, au moment du gouvernement de Lionel Jospin entre 97 et 2002. Là, il y a une rupture qui, semble-t-il, est plus profonde, qui s'exprime dans le fait qu'effectivement, et c'est le cas en Espagne avec les indignés, avec ce qui est devenu ensuite en partie Podemos, c'est qu'il ne se situe pas toujours nécessairement sur l'échiquier politique gauche-droite traditionnel parce qu'il considère que ça n'a plus de sens que de se positionner ainsi. Mais là encore, on pourrait revenir très en amont sur le fait que, à d'autres époques, au XIXe siècle, certains considéraient que, gauche-droite, c'était des franges de la bourgeoisie, et que, de toute manière, ce qui était important, c'était de mener le combat social et politique contre les dirigeants et contre les dominants. Et de ce point de vue-là, il y a un tel niveau de contestation et de colère à l'égard du gouvernement, que là, on retrouve un schéma de ce type-là.
Alors, vous parlez des indignés de Podemos. Est-ce que c'est ce que va devenir Nuit Debout, un mouvement politique? C'est sa fonction naturelle?
Ça, personne n'en sait rien. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Mais je crois qu'il y a aussi un sentiment...
Est-ce que, en tout cas, vous le craignez, au PS? Moi, d'avoir une nouvelle force de gauche?
Je ne le crains pas. Je pense que toutes les forces qui peuvent concourir dans le même sens sont plutôt bonnes à prendre. Mais je ne suis pas sûr qu'on arrive à ça pour une raison assez simple. C'est que contrairement à l'Espagne ou à la Grèce qui ont connu des mouvements de ce type, nous n'avons pas en France de gouvernement qui ait pratiqué l'austérité. Même si c'est un discours récurrent pour la gauche de la gauche, la vérité c'est que la France n'a pas imposé à ses ressentissants un régime d'austérité. Et donc, c'est la raison
pour
laquelle...
C'est pas ce qu'a connu l'Espagne. Voilà. On n'est pas en France comme
en Espagne. On n'est pas en Grèce. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce qui est devenu rapidement une colère populaire est ici encore la colère d'une avant-garde. Il y a des gens qui sont en colère, mais qui ne se reconnaissent pas forcément dans les revendications portées par Nuit Debout. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui peut-être a un peu échappé au pouvoir que je soutiens généralement, qui est en fait le débat sur la déchéance de nationalité. Et je pense que c'est la raison pour laquelle moi j'étais absolument contre cette déchéance. Parce qu'à ce moment-là, on a déchiré quelque chose avec un bout de la gauche qui a considéré que nous pouvions être dans une forme de reniement qui pouvait aller jusqu'à cette forme d'abandon de ce qui était notre particularité. Et donc derrière, on a maintenant un espèce de filtre qui est posé et tout mouvement, tout projet est vécu comme une régression. Sur le projet El Khomri, la vérité, c'est que, bien sûr qu'il y a des gens qui sont dans la rue, mais le Parti Socialiste lui-même a, par la voix de son premier secrétaire, annoncé pour la première version, celle qui n'était même pas encore déposée, que nous n'étions pas prêts à voter ce projet de loi. Et donc, nous l'avons fait évoluer dans un premier temps avec Manuel Valls, un deuxième temps au Parlement. Ça continue aujourd'hui avec les mesures qui sont annoncées en faveur de l'insertion des jeunes. On voit bien qu'il y a un débat aussi entre la majorité et le gouvernement. C'est pas un débat qui traverse uniquement la rue et Nuit Debout. C'est un débat qui traverse toute la gauche et c'est un débat qui est salutaire.
Alors, on va retourner dans la rue avec Nuit Debout. Loïc, j'imagine que les propos d'Olivier Faure, ça vous fait réagir?
Bah oui, tout à fait. D'autant plus que moi-même, je viens de quartier populaire, je vis et travaille en Seine-Saint-Denis, et on voit la... On a beau nous dire qu'il n'y a pas d'austérité, on voit la population se paupériser de jour en jour, on voit l'éducation nationale se dégrader, le logement se dégrader. On est ici aux côtés du droit au logement, aux côtés de plein de gens qui sont confrontés jour après jour à ça. Et oui, c'est se moquer du monde que de tenir un discours en disant qu'il n'y a pas d'austérité, de la même manière que c'était se moquer du monde en disant qu'on allait gagner la paix au Proche-Orient en allant bombarder des populations. Et voilà, tout ça, c'est des mots qui sont à l'encontre des actes qui sont commis.
Mais alors Loïc, c'est quoi l'avenir? C'est quoi l'avenir de Nuit Debout? Parce que c'est bien de faire des assemblées générales. Quel est l'avenir de Nuit Debout? Vous allez de créer un parti politique, être plus qu'une force de proposition?
L'avenir de Nuit Debout, il se crée de jour en jour. Aujourd'hui, il est de se reconstruire malgré un fort dispositif policier, et puis on y arrive. Et je ne sais pas où nous irons, par contre, ce que nous savons tous, c'est que nous avons besoin de construire une alternative à ce système et à ce type de fatalité qu'on voudrait nous imposer, qui serait de choisir entre des capitalistes de droite, des capitalistes de gauche, une austérité souriante ou une austérité dure. Et voilà, nous n'acceptons évidemment pas le repli nationaliste et raciste comme étant une alternative. Donc nous créons notre propre alternative et elle se crée avec tous les gens qui viennent participer ici.
Alors en même temps, vous avez... Olivier Faure, je vous laisse répondre.
Non, mais enfin, j'entends ce qui est dit. Je partage évidemment pas les critiques qui sont faites. Enfin, honnêtement, moi, je veux bien qu'on dise que nous arrêtons d'aider les populations qui sont en proie à l'extrémisme religieux au Mali, en Centrafrique, en Syrie ou en Irak. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d'aider justement ces migrants qui ne souhaitent qu'une chose, c'est pouvoir retourner dans un pays en paix un jour. Et donc, on peut pas dire à la fois qu'on va accueillir les migrants et qu'on laisse Daesh avancer, parce que là, effectivement, on est dans une contradiction qui est folle. De la même façon, dire qu'il y a des problèmes sur le logement, c'est une évidence. Personne ne dit le contraire. Mais en même temps, laisser penser que la France a mené une politique d'austérité, c'est faux. L'austérité, il suffit de voir ce que c'était en Angleterre, en Espagne, en Grèce, en Italie, au Portugal, pour voir que c'est des réductions drastiques des salaires des fonctionnaires, c'est le licenciement de plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires. Nous, en France, on fait exactement l'inverse. On a continué à embaucher des fonctionnaires. Il y en aura plus à la fin du quinquennat qu'au début. On a continué, on a dégelé le point d'indice. On avait déjà dégelé le point d'indice pour les catégories B et C l'an dernier. On continue à augmenter les retraites. Alors c'est sûr que c'est pas suffisant. Mais en même temps, laisser penser que la droite et la gauche c'est pareil, avoir ce discours-là, on tient simplement le discours des extrêmes, ou enfin, en tout cas de l'extrême droite, qui dit c'est l'UMPS qui gouverne, et donc finalement, puisque c'est l'UMPS, votez pour la vraie alternative qui est l'extrême droite. Et donc, à un moment donné, il faut quand même choisir son camp. Et même si je souhaite pas embrigader qui que ce soit et laisser penser qu'il faille tous s'aligner derrière le Parti socialiste, c'est pas du tout mon message. En même temps, laisser penser dans votre discours que tout s'équivaut, c'est une forme d'indifférenciation qui est une forme de négation de ce qu'est la politique.
Jean-Louis Madu, quand je voulais réagir.
Oui, je voulais revenir juste en arrière sur ce que vous disiez, sur la force politique sur laquelle ça pourrait éventuellement déboucher. Ce qui est certain, c'est que en Espagne, ça a débouché finalement sur Podemos, qui se confronte malgré tout à des problèmes stratégiques, je dirais relativement classiques, c'est-à-dire il se confronte à l'État, à l'appareil d'État, aux élections et aux stratégies d'alliance éventuelles, à tel point qu'on est dans une crise assez grave en Espagne. Donc, le message, c'est pas de dire, comment dirais-je, l'analyse, fatalement, ce type de mouvement spontané doit impérativement et va impérativement muter sous une forme classique politique traditionnelle, mais pour autant, je pense qu'il est difficile d'éliminer le débat stratégique. Et dans le débat stratégique, même de la gauche radicale ou de la gauche contestataire, il doit exister. Et c'est, quand vous regardez à l'échelle européenne, on a évoqué Podemos, on pourrait
rapidement,
évoquer
Syriza. Il nous reste 30 secondes.
Tout à fait. Eh bien, les choses se sont passées de façon extrêmement différente selon les pays. Hein. Et, par exemple, la tradition républicaine en France joue un rôle spécifique qui va probablement dépeindre sur l'ambiance qui est actuellement place de la République.
Ce sera donc le mot de la fin. Merci Jean-Marie Ducange. Jean-Numa Ducange, je me suis trompé, c'était sûr. Vous êtes historien, maître de conférence à l'Université de Rouen. Olivier Faure, député socialiste de Seine-et-Marne, vice-président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, l'un des secrétaire national du PS, et Loïc, membre de la compagnie théâtrale Joli Môme, l'un donc des fondateurs du mouvement Nuit Debout, qui était sur la place de la République à Paris. Débat à réécouter sur RFI.fr.